France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. La campagne du second tour commence. Emmanuel Macron aujourd'hui dans le Nord populaire qui a plébiscité Marine Le Pen. Cette fois le président au milieu de la place, pressé de questions sur le vaccin encore et toujours et les retraites.
Mais il faut les revaloriser, c'est aussi pour ça que...
En tout cas, je suis content de cet échange, même si...
J'ai compris sur le vaccin que vous aussi faites partie comme la dame. Vous êtes merci.
Emmanuel Macron gagne près d'un million de voix par rapport à 2017, mais sa réserve pour le second tour semble plus mince. Face à lui, Marine Le Pen, à nouveau finaliste, 400 000 de voix de plus qu'il y a 5 ans. Elle se présente comme la candidate de la France tranquille, ce matin encore à son QG.
Je suis très sereine et très confiante.
Marine Le Pen, déplacement dans Lyon cet après-midi auprès d'agriculteurs. Autre fait majeur de cet entre-deux tours, les réunions de crise se succèdent aujourd'hui chez les LR. Effondrement du grand parti de la droite sous les 5%, pas de remboursement des frais de campagne. La candidate Valérie Pécresse en est réduite à tendre la main ce matin.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons.
Les LR par ailleurs divisés sur le choix au second tour. Valérie Pécresse appelle à voter Macron, tout comme Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo. Pas une voix pour Le Pen, dit Jean-Luc Mélenchon. Autre gagnant de ce premier tour, près de 22% des voix à 500 000 de la finale. Il semble passer le relais.
Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher la fierté du travail accompli? Alors maintenant, c'est à vous de faire.
C'était hier soir au Cirque d'Hiver. Les enseignements du premier tour, les enjeux de l'entre-deux tours. Édition spéciale jusqu'à 14h sur France Inter. La carte du vote, nos reporters et spécialistes. Et pour nous accompagner tout au long de cette heure, le politologue Jérôme Fourquet, co-auteur de La France sous nos yeux, livre référence pour comprendre cette campagne. Et j'attends vos questions à vous. 01 45 24 7000 dès maintenant ou via l'appli France Inter rubrique Réagir. Vous aurez la parole à 13h30. Le 13-14, édition spéciale. Vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
En 2017, il avait connu deux jours de creux après le premier tour et une soirée très critiquée dans la brasserie chic de la Rotonde. Cette fois, Emmanuel Macron reprend la campagne plein au plancher et arpente des terres populaires qui ont largement voté pour Marine Le Pen. Denain dans le Nord, Lens et Carvin dans le Pas-de-Calais. C'est Hauts-de-France où la candidate d'extrême droite l'a devancé de 8 points hier. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le président à Denain et qui discute avec des habitants depuis tout un moment.
Oui, des habitants qui ont porté Marine Le Pen, vous l'avez dit, largement en tête hier soir à plus de 40% ici à Denain, 25 points devant lui, même si ceux qu'il rencontre ce midi lui sont largement favorables. Un électorat populaire vital donc pour le second tour à qui Emmanuel Macron doit prouver qu'il ne l'a pas délaissé.
Pensez à la France du bas.
C'est pour ça que je suis là aussi.
Et j'y pense. Ils vivent dans la misère.
La misère. Ici, un taux de chômage à plus de 20%, un revenu moyen sous le seuil de pauvreté, conséquence de la désindustrialisation qui a jeté cette terre de gauche, historiquement, dans les bras de l'extrême droite.
Bonjour, monsieur.
Oui, président. Les Français s'inquiètent. Vous savez pourquoi ils se ruent vers le Front National, ou enfin, vers le Rassemblement National? Parce qu'ils sont inquiets. On n'a pas apporté des réponses à ces millions de Français qui s'interrogent, qui se posent des questions au quotidien, qui ont peur. Et beaucoup de Françaises et de Français qui vont certainement voter pour vous au second tour. Mais il faudra les rassurer, monsieur le président. Je suis désolé.
Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas les rassurer avec des fausses promesses. Les choses de fond, les réponses de fond, elles prennent du temps.
Marine Le Pen a très tôt lancé sa campagne sur le pouvoir d'achat. Elle a gagné des points grâce à cela, mais son programme est mensonger, réplique le président sortant. Il sera cet après-midi dans la circonscription de son adversaire, dans le bassin minier, à Carvin, puis à Lens.
Simon Le Baron avec Geoffrey Marianne à Denain, dans le Nord. Demain, Emmanuel Macron dans une autre région qui a largement voté Le Pen, le Grand Est. La candidate d'extrême droite arrive également en tête en région PACA, en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse. Emmanuel Macron, de son côté, tient l'Ouest, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire aussi, ainsi que Auvergne-Rhône-Alpes. Au plan national, 27,6% des suffrages exprimé pour le président candidat, près d'un million de voix de plus qu'il y a 5 ans, 23,4 pour Marine Le Pen, 400 000 de plus qu'il y a 5 ans. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous suivez la campagne de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, on l'a vu, repart pied au plancher après le premier tour. Et elle, comment reprend-elle ?
Alors après moult discussions au sein de l'équipe entre les tenants d'un départ, elle aussi pied au plancher, et ceux qui voulaient prendre le temps de débriefer, de se reposer aussi, Marine Le Pen a tranché ce matin. Cet après-midi, il y aura certains un bureau de campagne au QG, mais surtout un déplacement pour ne pas être complètement absente de ce premier jour de campagne de second tour. Visite donc chez un agriculteur céréalier dans l'Yonne, avec qui seront évoquées les difficultés liées aux conséquences de l'inflation. Rien de surprenant, donc on reste dans la ligne du premier tour avec le pouvoir d'achat comme première préoccupation. On ne change pas une méthode qui gagne, assumé ce matin Franck Alizio, l'un des conseillers de Marine Le Pen. Seule différence fondamentale finalement, l'entrée dans l'arène d'Emmanuel Macron avec un duel à distance qui, ça y est, s'engage. Le RN, lui, fourbit ses armes. Première d'entre elles, les retraites. Un proche résume ce qui sera martelé ces prochains jours. Voter contre Marine, c'est voter pour un départ à 65 ans.
Au nom du rejet de l'extrême droite, Emmanuel Macron reçoit le soutien de certains de ses adversaires d'hier. Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon met une nuance, pas une voix pour Marine Le Pen, a-t-il répété lors de son discours hier soir. Mais à ce stade, pas d'appel formel à voter Macron, la base doit être consultée. Macron-Le Pen, sur quels arguments ces deux-là vont-ils faire campagne ? Dans son discours à la porte de Versailles à Paris hier soir, le vainqueur de 2017 se dit prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les sensibilités, sans préciser quoi. Il ajoute « rien n'est joué, soyons humbles, déterminés, allons convaincre ». Message à ceux qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême. Notre projet répond plus à vos peurs et aux défis du temps que l'extrême droite. Quels arguments contre Marine Le Pen ? Illustration avec les propos de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, invité de France Inter ce matin.
L'abject contre nos concitoyens musulmans et juifs, parce qu'ils expliquent dans leur projet qu'il y aurait ceux qui pourraient s'habiller, qui pourraient manger comme ils le veulent, et puis les autres. Et puis injuste, parce que c'est un projet qui vise à dire que le riche propriétaire parisien qui a 10 appartements, on va lui supprimer son impôt sur la fortune immobilière. Par contre, le petit entrepreneur du Nord qui a travaillé toute sa vie, on va se remettre à lui taxer le fruit de son travail. La réalité, c'est que vous avez un président de la République qui a mis en place une politique qui nous a permis d'atteindre le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans et qu'on veut continuer à agir pour l'emploi.
Le projet de Marine Le Pen abject et injuste, disent les macronistes. De son côté, la candidate finaliste pour la deuxième fois estime que les Français ont face à eux deux choix de société ou de civilisation. Du côté Macron, ce qu'elle a présenté hier depuis une salle du Bois de Vincennes comme la division, l'injustice, le désordre au profit de quelques-uns. De son côté à elle, le rassemblement autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée de nation et de peuple. Elle ajoute, tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont vocation à rejoindre ce rassemblement. Elle veut être la présidente de tous les Français. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, était lui aussi l'invité de France Inter ce matin. Angle d'attaque, les retraites.
70% des Français qui votent contre Emmanuel Macron, c'est 70% des Français qui savent que si Emmanuel Macron est réélu, ça va être 5 années supplémentaires de casse sociale avec la retraite à 65 ans, saignée fiscale. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans, qui ne veulent pas remettre la politique de la France entre les mains de McKinsey et d'autres cabinets privés. Donc, les Français ont enfin la possibilité d'abord d'élire une femme à l'Élysée et de se choisir une présidente, eux, qui les aime et qui les respecte.
Et Marine Le Pen sera demain matin l'invité de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Première interview après son accession en finale. Elle insiste notamment sur la possibilité, on l'a entendu déjà avec Jordan Bardella, si on suit son projet, d'accéder à la retraite en bonne santé. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Entre ces deux tours, nous examinerons les programmes des deux candidats. Et donc, du côté de Marine Le Pen, on insiste sur les retraites. Ce n'est pas un hasard, c'est une vraie différence entre les deux programmes.
Oui, la principale différence, c'est bien l'âge légal de départ en retraite. Il est aujourd'hui de 62 ans. Emmanuel Macron veut le retardé à 65 ans. Marine Le Pen, au contraire, veut l'avancer pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, 60 ans pour ceux qui ont débuté avant l'âge de 20 ans, entre 60 et 62 ans pour ceux qui ont commencé avant 25 ans. Évidemment, cette opposition entraîne des conséquences totalement inverses pour les finances publiques. Les retraites version Macron rapporteront de l'argent aux comptes sociaux, 9 milliards selon l'entourage du président candidat, tandis que la réforme version Le Pen aura un coût de 10 milliards d'euros selon le chiffrage de la candidate. beaucoup plus, 26 milliards selon celui des économistes de l'Institut Montaigne. Les deux programmes prévoient par ailleurs des mesures pour les retraités les plus modestes, augmentation du minimum vieillesse à 1000 euros pour Marine Le Pen et revalorisation des plus petites pensions, instauration d'une pension minimum à 1100 euros pour Emmanuel Macron. Chacun des deux candidats promet enfin d'indexer les retraites sur l'inflation.
Ajoutons que c'est la troisième fois que l'extrême droite accède au second tour de la présidentielle. La première fois, c'était il y a 20 ans, 2002. En totalisant alors le score des deux candidats de cette mouvance, on était à 19% des suffrages. Cette année, Le Pen plus Zemmour plus Dupont-Aignan, on est à 33%. Éric Zemmour, 7% des voix hier soir. Nicolas Dupont-Aignan, 2%. Ils appellent à voter Marine Le Pen au second tour. Zemmour, fort dans les quartiers chics de Paris, à Versailles, à Neuilly et dans une partie de la région PACA. Notons encore que le record d'abstention de 2002, 28,4%, n'a pas été battu. 25% d'abstention hier. C'est tout de même en hausse de 3 points par rapport à 2017. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Vous nous accompagnerez tout au long de cette émission spéciale, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, co-auteur de ce livre « La France sous nos yeux ». Macron-Le Pen, revoici donc la finale. Quoi de différent par rapport à 2017 ?
Alors, ce résultat d'hier soir nous confirme rétrospectivement que ce à quoi nous avons assisté en 2017 n'était pas un accident.
Ouais.
C'est-à-dire que nous sommes pour la deuxième fois sur ce nouveau duel macroniste contre lepeniste. On rappellera que lors des élections européennes de 2019, c'était également ces deux partis qui avait viré en tête, et donc à tous les scrutins nationaux, donc on met de côté les scrutins locaux, c'est aujourd'hui ces deux formations politiques qui sont les formations dominantes. Mmh. Et donc ça nous dit qu'on est passé aujourd'hui dans un nouvel univers politique, et que nous avions entamé la saison 1 de la décomposition, recomposition de la vie politique française en 2017, avec l'avènement du macronisme, l'effondrement, la dislocation du Parti Socialiste, Benoît Hamon était à 6%, et nous avons assisté hier à la saison 2 de ce phénomène de décomposition-recomposition, puisqu'on peut dire, rien ne bouge, on a Emmanuel Macron, Marine Le Pen en finale, Jean-Luc Mélenchon un peu au-dessus de 20%, donc on est sur des choses très proches. Néanmoins, on a confirmation de l'atomisation du Parti Socialiste, Anne Hidalgo est à moins de 2%, et on a surtout le deuxième pilier historique du paysage politique français, les Républicains qui, à leur tour, sont foudroyés hier avec un score inférieur à 5%. Et donc, c'est ça la nouveauté, c'est la poursuite du phénomène de décomposition, recomposition et peut-être même son accélération.
Différence par rapport à 2017, Marine Le Pen a sans doute plus de réserves de voix qu'à l'époque et Emmanuel Macron peut-être un peu moins.
Alors si on se projette maintenant dans le second tour, peut-être qu'on reviendra sur les enseignements du premier, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui au regard à la fois des résultats du premier tour et puis des intentions de vote qui commencent à être publiées sur le deuxième tour, c'est que le rapport de force pour ce second tour n'est plus le même que celui qui prévalait en 2017. En 2017, dans l'entre-deux-tours, avant le fameux débat perdu par Marine Le Pen était montée au mieux, pour elle, à 41% d'intention de vote dans un deuxième tour, face à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, différents sondages la placent à 46, 47, voire 49%. Donc on voit bien qu'il y a une marche supplémentaire qui a été franchie par la candidate du Rassemblement National. Pour deux raisons. La première, c'est parce que son image s'est améliorée, s'est arrondie. Elle a beaucoup travaillé sur tout ce quinquennat pour faire oublier ce désastre du débat d'entre-deux-tours. Nous voyons, nous, au long cours, une amélioration de son image qui a été peaufinée et parachevée par le surgissement du phénomène Zemmour qui a récupéré à son compte le mistigri de l'extrémisme et qui a permis de recentrer au final, Marine Le Pen. Un sondage que nous avons réalisé en fin de semaine dernière disait qu'un Français sur deux conférait à Marine Le Pen la stature d'une présidente de la République. Un sur deux. Et l'autre phénomène concomitant, c'est la dégradation de l'image d'Emmanuel Macron par rapport à 2017. En 2017, c'est un candidat neuf. Depuis, il a un bilan et il a généré dans toute une partie de la population un anti-macronisme qui était un peu passé sous les radars avec le quoi qu'il en coûte, avec la crise ukrainienne, et qui est remonté à la surface. Et nous allons assister à une opposition dans cet entre-deux-tours entre le Front Républicain d'un côté, brandi par Emmanuel Macron, et le rassemblement de l'antimacronisme sur lequel Marine Le Pen va essayer de surfer.
Un mot de la montée de l'extrême droite au fil des années. Je citais les chiffres en 2002. Jean-Marie Le Pen plus Bruno Maigret, c'était 19%. Là, si on totalise les trois candidats d'extrême droite, on arrive à 33% plus 14 points. C'est une montée très nette au fil des années, comme inéluctable.
Oui, alors il y a eu des coups d'arrêt partiels en 2007. Nicolas Sarkozy avait fait refluer Jean-Marie Le Pen autour de 10%. On avait parlé à l'époque d'un siphonnage de ses voix. Et quand on regarde au long cours, effectivement, la dynamique est très porteuse pour le Rassemblement National. Alors, pour quelles raisons? Il y a, comme souvent, plusieurs phénomènes. D'une part, il faut se replonger dans le surgissement du Front National, du phénomène Le Pen. On est au début des années 80, 83, 84. C'est au moment où la société française prend conscience de la présence sur son sol d'une immigration assez nombreuse et du fait que cette immigration n'a pas vocation à repartir, qu'elle n'est pas une immigration invitée pour le travail, mais qu'elle a fait souche. C'est l'époque de la marche des beurs, par exemple. Et depuis, cette question de la présence d'une population issue de l'immigration, ne nous a plus quittés dans le débat, mais aussi dans nos vies. Tout cela ajouté à des phénomènes qui se sont développés depuis 2012, et les attaques de Mohamed Merah, le phénomène du terrorisme islamiste, on a vu encore sous ce quinquennat la décapitation de Samuel Paty, etc., etc. Donc tout ça crée un climat très lourd. Donc cette question sécuritaire, la question identitaire, quelle est l'identité de la France, la question aussi de la désindustrialisation. Vous parliez d'Emmanuel Macron qui se rend dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Tout ça, des facteurs lourds qui se sont renforcés au fil des décennies et sur lesquels la famille Le Pen a capitalisé.
On vous retrouvera tout au long de cette émission spéciale, Jérôme Fourquet. Deux autres faits majeurs après ce premier tour. Le très bon résultat de Jean-Luc Mélenchon, on y revient. Mais tout de suite, l'effondrement de la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse. 5,5 millions de voix de moins que François Fillon il y a 5 ans. Elle récolte 4,8% des suffrages exprimés, sous les 5 donc, qui permettent le remboursement des frais de campagne. Chez les LR, c'est une journée de réunion de crise. Les députés et sénateurs cet après-midi. Et ce matin, au siège rue de Vaugirard, comité stratégique et bureau politique. En arrivant, la candidate Valérie Pécresse avait une annonce importante.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepecresse.fr. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine.
Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
En direct du siège des LR rue de Vaugirard à Paris, un appel aux dons donc pour renflouer le parti. Scène étonnante, cela dit, ce n'est pas une première.
Et oui, rappelez-vous, en 2013, après l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, l'UMP d'alors avait lancé un appel aux dons et avait recueilli 11 millions d'euros, le fameux Sarkoton. Les militants, électeurs de droite français, donneront-ils à nouveau? Rien n'est moins sûr après la débâcle d'hier. Vous l'avez entendu, Valérie Pécresse se dit endettée à hauteur de 5 millions d'euros en prêt personnel qui pourrait en partie être épongé par les LR d'après nos informations. La partie prêtée par le parti serait en revanche sécurisée selon nos sources. Mais rien n'a à ce stade filtré de ce qui s'est dit ou négocié ce matin, Bruno.
Autre sujet lourd, Anne, que doivent aborder les Républicains aujourd'hui, l'attitude à adopter au second tour.
Oui, et l'exercice s'annonce acrobatique. Plusieurs réunions ce matin, vous l'avez dit. On attend d'une minute à l'autre le verdict du patron du parti, Christian Jacob, qui doit donner une conférence de presse pour expliciter la position d'un parti écartelé depuis hier soir entre deux lignes. Celle de Valérie Pécresse, qui a dit clairement qu'elle voterait Macron au second tour, comme Xavier Bertrand, Michel Barnier et Damien Abad, patron des députés LR, qui l'a répété à son arrivée ce matin.
Je voterai Emmanuel Macron. Je ne mets pas un signe égal entre l'extrême droite et le candidat républicain. Et c'est ce que je vais défendre ce matin.
Autre ligne, le Nini, le vote blanc, position d'Éric Ciotti et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.
Je voterai blanc. Je n'ai pas changé depuis 5 ans. On ne vote pas entre la peste et le choléra. On prend, hélas, son parti de la situation qu'on a largement provoquée. Donc il n'y aura ni vote pour M. Macron, que j'ai combattu pendant 5 ans, ni vote pour Mme Le Pen, qui est à la tête d'un clan qui défraie le pays. Voilà.
Alors, les LR réussiront-ils à maintenir un semblant d'unité? Laurent Wauquiez a plaidé ce matin pour un dénominateur commun. Aucune voix pour Marine Le Pen. Position à l'instant validée par le bureau politique selon plusieurs sources. Le parti LR vient donc de s'offrir quelques heures de sursis car le spectre des législatives et du positionnement par rapport à Emmanuel Macron plane déjà au-dessus de la droite.
Je vous ai bien compris, Anne. Ce qui est en train d'être adopté, c'est aucune voix pour Emmanuel Macron, aucune voix pour Marine Le Pen.
Aucune voix pour Marine Le Pen.
Pour Marine Le Pen. Merci Anne Souhaitemont. En direct du siège des LR, rue de Vaugirard à Paris avec Nicolas Mathias. La droite est dans les choux. La gauche aussi, sauf Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot est sous les 5% de suffrage exprimé. 4,6. Fabien Roussel, 2,3%. Anne Hidalgo est sous les 2%. 10e position. Seuls Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont derrière elle. Même dans sa ville de Paris, elle dépasse à peine les 2%. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à Paris devant Jean-Luc Mélenchon. Pour sa troisième candidature, le candidat insoumis totalise au plan national 7 600 000 voix, près de 22% des suffrages exprimés. Il passe à 500 000 voix d'une qualification au second tour. Il est en tête dans une série de grandes villes tenues par la gauche ou les écologistes. Strasbourg, Nantes, Rennes, Marseille, Lille, juste derrière Emmanuel Macron à Lyon, Jean-Luc Mélenchon. Il est même en tête à Toulouse, dont le maire là est de droite. En tête aussi dans la région Île-de-France et ses quartiers populaires en banlieue. 49% par exemple en Seine-Saint-Denis, fort au sein de l'électorat des quartiers populaires. Commentaire d'Adrien Quatennens, l'insoumis, ce matin au micro d'Inter.
On a vu des endroits où habituellement les gens ne votent pas, qui y allaient. Il y avait des queues absolument impressionnantes devant certains bureaux de vote. Donc oui, on y a cru et on a compris seulement au milieu de la nuit qu'on n'arriverait pas à rattraper ce retard. Évidemment qu'il y a de l'émotion, je ne vais pas le cacher. Vous me dites qu'est-ce qui vous a manqué? Vous l'avez dit vous-même, il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire trois fois rien. Bon, évidemment, d'abord, le sursaut de mobilisation en notre faveur, il a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant, mais déjà, franchement, il l'a été. Quand vous voyez les scores, y compris, je pense, aux Outre-mer, bon, et tout ce qui s'est fait, le sursaut de mobilisation, il y est. Évidemment qu'en 2017, en 2012, les communistes étaient avec nous, et nous, on a passé la campagne à dire des dispersions qui pourraient être évitées. Quand vous voyez que ce matin, Jean-Luc Mélenchon finit à 22%, et que Marine Le Pen est un point devant nous, et que Fabien Roussel fait 2,5%, oui, ces voix nous ont manqué, incontestablement.
Alors, quelle sera la suite pour Jean-Luc Mélenchon? Sera-t-il à nouveau candidat aux législatives? Hier, il a semblé passer le relais à la jeune génération. Si on regarde la carte, il y a un autre endroit où il arrive en tête et où Emmanuel Macron, après les mois de Covid, a du chemin à faire, c'est l'Outre-mer, Yann Gallic.
Oui, si l'on regarde les résultats dans l'ensemble des Outre-mer, Emmanuel Macron n'arrive qu'en troisième position derrière Marine Le Pen et loin, très loin même derrière Jean-Luc Mélenchon. En Guadeloupe, par exemple, il ne recueille que 13,4% des suffrages, là où le candidat de la France insoumise dépasse les 56%. En Martinique et en Guyane, le président de la République est aussi largement distancé. Aux Antilles, son image a été sérieusement écornée par la crise du Covid et le mouvement de contestation lié à l'obligation vaccinale. Mais ce rejet massif d'Emmanuel Macron est aussi la conséquence de la défiance à l'égard de l'État dans la plupart des territoires ultramarins, selon l'historienne et politologue réunionnaise Françoise Vergès.
Il y a quand même une tradition qu'on oublie un peu de critique de l'État dans ce qu'on appelle les Outre-mer, parce que l'État a été perçu comme d'abord lié à la question de l'esclavage, à la question du colonialisme ensuite. Donc une très grande méfiance envers un État qui abandonne la santé, l'éducation, l'emploi, le logement, c'est-à-dire la vie quotidienne. Des personnes est affectée depuis des décennies. Ils voient leurs enfants sans avenir, donc vraiment une impression d'un État méprisant. Un État lointain. Macron est vu comme quelqu'un qui est arrogant. Alors là, vous savez, à La Réunion, c'est quelqu'un qui appartient à une autre planète.
Et dans les Outre-mer, ce premier tour a surtout été marqué par une très forte abstention qui dépasse les 60% en Guyane et atteint même 69% en Polynésie.
Merci Yann Gallic. Pour être complet, le score de Jean Lassalle, plus d'un million de voix hier, 3,2% des suffrages exprimés. Il est devant Fabien Roussel et Anne Hidalgo. Jérôme Fourquet, encore deux questions avant de vous entendre dialoguer avec les auditeurs d'Inter tout à l'heure. Le succès de Jean-Luc Mélenchon, succès relatif, il n'est pas au second tour, comment l'analysez-vous?
Alors on est dans la poursuite d'une dynamique qu'il avait déjà enclenchée en 2017. Il s'est imposé comme le candidat du vote utile à gauche. De ce point de vue-là, les propos de Ségolène Royal, il y a quelques semaines déjà, ont été assez marquants.
Oui.
Donc il fait le plein des voix à gauche. On est sur le reste du paysage à gauche avec des scores qui sont très très faibles. Et Jean-Luc Mélenchon retrouve une grande partie de sa base électorale de 2017 à laquelle s'adjoignent cette année de nouveaux renforts avec, vous l'avez dit, des progressions très spectaculaires dans une partie des Outre-mer. On mentionnera l'appel à voter pour lui de Christiane Taubira en Guyane, par exemple. Il s'est déplacé aux Antilles, il avait aussi pris des positions, on s'en souvient, au moment de la question vaccinale. Et puis, des progressions également assez importantes dans les quartiers populaires et, si on parle très très clairement, dans l'électorat issu de l'immigration, avec notamment en Seine-Saint-Denis, dans certaines communes, des scores à plus de 50%, et une capacité à capter, il l'avait déjà fait en 2017, mais à capter encore davantage un électorat culturellement de gauche, donc des enseignants, des étudiants, et les grandes villes que vous avez citées tout à l'heure sont des métropoles régionales, mais sont aussi des grandes villes universitaires qui allient quartier populaire et une forte présence d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs qui se sont massivement reportés sur ce candidat Mélenchon.
Et on analysera avec vous là dans quelques minutes l'effondrement de la droite. Je vous invite d'ores et déjà à aller également sur franceinter.fr pour trouver les cartes, les chiffres, les données clés pour comprendre ce premier tour et l'édition spéciale qui reprend dans quelques minutes les autres titres de l'actualité. D'abord la Société Générale qui annonce son retrait de Russie. Elle va céder la totalité de sa participation dans Rosbank, sa filiale russe. Un retrait sur fond évidemment de guerre en Ukraine et de sanctions économique. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour.
La Société Générale prenait un grand risque financier à rester dans le pays. Elle était exposée à 15,5 milliards d'euros en Russie via Rosbank.
Et c'est le deuxième réseau bancaire du pays. La Société Générale y était actionnaire majoritaire après être montée au capital en 2006. Le groupe français cède donc la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance à Interros Capital. C'est le fonds d'investissement de l'oligarque Vladimir Potanine. La deuxième fortune de Russie en 2021, selon le magazine Forbes. Avec cette cession, la Société Générale perd 3 milliards d'euros, mais la banque, dont les premières opérations en Russie remontent à 1872, ne veut pas donner l'impression de s'en aller en catastrophe. Le groupe se retire de manière ordonnée. Sur son communiqué de presse, la Société Générale, sous pression de plus en plus forte pour partir, le Crédit Agricole, BNP Paribas, ont suspendu leurs activités en Russie déjà, mais pour la Société Générale, l'équation était plus complexe. Seul groupe français à détenir un établissement dans le pays, la banque employait 12 000 personnes via Rosbank. Ce matin, la Bourse de Paris réagit très favorablement. Le titre Société Générale prend presque 6%.
En Chine, même la censure traditionnelle ne suit plus. 11 jours de confinement très strict à Shanghai et les habitants n'hésitent plus à s'exprimer ouvertement pour dénoncer le zéro Covid, cette politique du gouvernement qui transforme leur quotidien en cauchemar. Les réseaux sociaux, les témoignages écrits et vidéos se multiplie dans un quartier de Shanghai. Des habitants ont même commencé à crier aux fenêtres de leur appartement. Récit de notre correspondant en Chine, France Inter, Sébastien Berriot.
Les cris et les sifflets résonnent au milieu des barres d'immeubles de ce quartier de Shanghai. Les habitants sont sortis aux fenêtres de leurs appartements. Scène inédite en Chine où ce genre de contestation est extrêmement rare. Les résidents laissent éclater leur colère, lassés par les restrictions sanitaires très dures. Explication donnée par l'auteur de la vidéo.
Nous venons gérer.
Au début, certains ont crié, puis brusquement, tout le monde s'est mis à crier, car tous ces gens ne savent pas combien de temps ce confinement va durer et pourquoi la mesure a été décidée. Il n'y a pas d'explication. Si ça dure longtemps, il y aura des problèmes.
La tension monte, notamment à cause du manque de nourriture. Dans certains quartiers, des manifestations ont été signalées et les habitants sont excédés.
Je m'en fous, même si le Parti communiste m'arrête. D'ailleurs, où est le communisme ? Je n'ai plus de moyens pour vivre. Mon magasin est fermé.
Inquiète de la contestation, les autorités locales ont annoncé ce matin le découpage de la ville en trois secteurs, zone confinée, zone de contrôle et zone de prévention, laissant entendre que certains habitants de Shanghai pourraient retrouver leur liberté de mouvement. Reste à voir quand la mesure va s'appliquer sur le terrain. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Un mot de la Corse, est-ce une conséquence des mouvements de colère après la mort d'Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac? En tout cas, Emmanuel Macron est arrivé à 10 points de Marine Le Pen hier en Corse, 18 contre 28. Et est-ce une manière d'apaiser cette colère? Les deux derniers membres du commando Erignac viennent d'arriver à la prison de Borgo. Le rapprochement de Pierre Alessandri et d'Alain Ferrandi était une promesse du Premier ministre. Jean Castex, l'édition spéciale de France Inter consacrée à la présidentielle continue dans un instant. Mais d'abord, après la publicité, la météo.
À table.
Ah, c'est l'heure de mes médicaments. Tu peux me les attraper, ils sont dans le sac de la pharmacie.
Mais papy, tu prends plus tes médicaments Mylan ?
Non ma chérie, maintenant ça s'appelle Viatrice.
Viatrice ? Et qu'est-ce que ça change pour toi ?
Ça change rien, à part le nom.
Mylan devient Viatrice. À part le nom sur les boîtes, vos médicaments restent les mêmes pour ne rien changer à vos habitudes. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
Alors, notre otage à Acapulco. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de notre otage à Acapulco? Par exemple, vous, là, qui écoutez la radio sans rien faire, vous savez quelque chose? C'est une affaire extrêmement délicate, vous savez? Cruciale, même. Personne? Bon, bien, parfait. Eh bien, dans ces conditions, je ne vois plus qu'une seule solution. Envoyer Aurel le consul, le héros phénomène de Jean-Christophe Ruffin, régler l'affaire. Notre otage à Acapulco, de Jean-Christophe Ruffin. Il y a des suspenses que seul Aurel le consul peut régler, vous savez, un livre Flammarion.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Ce sont des heures ensoleillées et douces qui nous attendent.
Oui, le soleil est présent, alors souvent blanchi tout de même par des nuages élevés, mais l'impression reste belle. Sur le Languedoc et les Cévennes, là le vent marin apporte pas mal de nuages. Sur l'ouest de la Bretagne, des nuages s'invitent également cet après-midi avec quelques averses. Ça deviendra instable ce soir sur le nord-ouest avec des averses orageuses. On n'oublie pas le vent de sud à sud-est. Il souffle sur toute la moitié sud, jusqu'à 80 km à l'heure en vallée du Rhône, 80 à 100 pour le vent d'Autan et même davantage ce soir et cette nuit, jusqu'à 100 km à l'heure en région toulousaine, 120 sur le Lauragais, sur la Montagne Noire, Haute-Garonne et Tarn sont d'ailleurs en vigilance orange. Et les températures, elles sont en hausse, surtout au nord. Comptez 16 à 20 degrés autour de la Méditerranée, 17 à 24 ailleurs, jusqu'à 26 au pied des Pyrénées. Et puis demain, ça sera perturbé à l'ouest et très voilé ailleurs.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
Et nous reprenons cette édition spéciale consacrée au premier tour de la présidentielle et à l'entre-deux-tours. Le politologue Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, co-auteur du livre « La France sous nos yeux » est toujours avec nous. J'attends vos questions et réflexions au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Pour clarifier les idées de chacun, regard sur la carte électorale au lendemain de ce vote. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Service politique de France Inter. Maxence, quelle France a voté Macron hier?
Il a la façade atlantique pour lui. L'Ouest a voté Emmanuel Macron. Ses anciennes terres démocrates chrétiennes l'ont choisi comme en 2017. Et c'est même encore plus net. Dans les Pays de la Loire, François Fillon avait résisté. Cette fois, le bleu a disparu, comme dans l'Ouest parisien et francilien, complètement acquis à sa cause. Il était il y a 5 ans le candidat des grandes villes. C'est cette fois Jean-Luc Mélenchon qui a pris le dessus. Montpellier, Strasbourg, Nantes, Rennes et même Tourcoing, même à Amiens, sa ville natale, au Havre, chez Édouard Philippe. Il demeure, lui, le candidat des métropoles autour de ces grandes villes. Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, il domine.
Voilà pour Emmanuel Macron. Dans quelle région, Maxence, vote-t-on Le Pen ?
Bien, vous l'avez deviné, Marine Le Pen domine tout le quart nord-est. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, à l'exception de l'Alsace. Elle arrive aussi en tête dans la Nièvre, l'Allier, la Creuse, l'Indre, la Haute-Saône, le Jura, la Dordogne. En Corrèze, ça ne se joue qu'à un millier de voix. Dans près de 18 000 petites communes de moins de 2000 habitants, elle l'emporte. C'est deux fois plus qu'Emmanuel Macron. Pour la première fois, la Corse la place devant. Les indépendantistes avaient appelé au boycott. Tous les départements de l'arc méditerranéen sont bleu marine. Et elle progresse aussi dans des bastions de gauche comme Carmo, la ville de Jaurès dans le Tarn, première à 27%.
Quoi d'autre de notable sur la carte, Maxence ?
Dans sa ville, Paris, Anne Hidalgo ne rassemble que 22 000 voix, 2% des suffrages, Emmanuel Macron à 35%. À Tulle, le PS à 3%. À Versailles, Éric Zemmour 5 points devant Valérie Pécresse. À Neuilly, chez Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron à 49%. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, 3e à 13%. Jean-Luc Mélenchon très largement en tête dans les Outre-mer, plus de 50% des voix. En Guadeloupe et en Martinique, Éric Zemmour Zemmour rassemble lui pour l'essentiel sur l'arc méditerranéen, des cartes scrutées depuis cette nuit pour préparer les élections législatives dans 9 semaines.
Voilà pour la carte, Jérôme Fourquet. Je voulais parler sociologie avec vous, mais vous qui connaissez la carte par cœur, vous avez peut-être remarqué d'autres points notables sur la carte.
Alors ce qu'on constate aussi, c'est les cartes d'évolution d'un scrutin à l'autre.
Oui.
On voit par exemple qu'Emmanuel Macron, ça a été en partie dit, se renforce dans tous les fiefs traditionnels de la droite,
ouais.
Qu'il s'agisse des stations balnéaires, Arcachon, La Baule, Royan, il y a une très forte progression. Il s'agisse aussi des beaux quartiers, vous avez cité, on a cité Neuilly. On pourrait évoquer également des zones frontalières, sur la frontière suisse, par exemple, à proximité du Luxembourg, des endroits qui votent traditionnellement beaucoup à droite. Il y a une très forte progression du vote Macron. Idem dans un certain nombre de bassins ruraux, je pense notamment à l'Aubrac, à la Mayenne, au Bocage normand également. Oui. Donc on voit qu'on a une translation, et tout ça s'explique dans nos chiffres. Plus d'un tiers, 37% des électeurs qui avaient voté François Fillon, ont opté cette année pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse ne recueille que 20% de l'électorat filloniste de l'époque. L'autre tiers s'est réparti entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc on a un parti de droite qui s'est fait littéralement centrifuger, oui. Espèce de Yalta, avec les macronistes d'un côté et Le Pen et Zemmour de l'autre, qui se sont partagés les dépouilles géographiques de ce vote de droite.
Je voulais venir à Valérie Pécresse plus tard, mais allons-y, puisque vous mettez le doigt sur le sujet. Est-ce qu'au fond, quel que soit le candidat, la droite aurait subi la déroute qu'elle a subie hier?
Alors, c'est compliqué de répondre de manière affirmative. Il y a sans doute des erreurs qui ont été commises par cette candidate. Sans doute aussi que son profil personnel, son parcours politique était trop proche de celui d'Emmanuel Macron. Vous savez que quand Emmanuel Macron avait présenté son programme, elle avait accusé d'avoir passé le sien à la photocopieuse. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on a un problème pour LR qui est structurel. C'est-à-dire qu'il est écrasé entre ces deux blocs qui sont d'un côté la droite identitaire et de l'autre le bloc central macroniste, ce qui est un fait sans précédent. La droite a toujours dû se battre sur les deux flancs, ouais. Mais historiquement, et le centre et l'extrême droite pesaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc c'est elle aujourd'hui, cette droite, qui est la variable d'ajustement et qui passe à la centrifugeuse. Donc c'est extrêmement difficile. Je vous ai donné les chiffres de dispersion de cet électorat, mais on voit que ce qui reste d'électorat pécressiste, 5%, si on se projette dans les intentions de vote pour le deuxième tour, un tiers sur Emmanuel Macron, un tiers sur Marine Le Pen, un tiers dans l'abstention, aujourd'hui. Donc il y a eu deux phénomènes de scission, coup sur coup, et il ne restera sans doute plus grand-chose de ce grand parti, même si il dispose encore de son maillage d'élus local, mais qu'il n'a plus d'incarnation au niveau national.
La sociologie, Emmanuel Macron, hein, en chiffreront 9,5 millions de voix hier, Marine Le Pen 8 millions de voix. A-t-on face à face une France qui se porte bien, une France qui souffre?
Alors, grosso modo, si on devait résumer à grands traits, c'est quand même ça l'idée, même si quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est toujours un peu plus compliqué.
Nuancé, ouais.
On voit par exemple que dans notre enquête, Emmanuel Macron est à 18% en moyenne sur les ouvriers et les employés, donc ce n'est pas rien, mais il fait 34% ou 35% chez les cadres. Et quand vous regardez Marine Le Pen, c'est assez frappant, on a des chiffres qui sont juste inversés.
Oui.
15% chez les cadres, 34% chez les ouvriers et les employés. Donc on a ces deux France, France d'en haut, France d'en bas, oui. Si l'on peut dire, même si Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont chacun quand même une base électorale non négligeable dans le camp adverse.
Dans d'autres catégories de population, dans l'autre catégorie. Oui.
Donc on a ce clivage sur la catégorie socio-professionnelle. On le retrouve aussi sur le niveau de diplôme. Plus les électeurs sont diplômés, plus la tendance à voter Emmanuel Macron était forte. Et inversement, moins les électeurs sont diplômés, ce qui veut dire souvent qu'ils ont des métiers moins rémunérés, oui. Qu'ils sont dans des métiers qui sont plus subis, qui sont plus exposés au chômage également ou à la précarité, et plus ils ont voté pour Marine Le Pen. Un autre point peut-être à souligner, un point important dans un pays qui vieillit, le score auprès des retraités,
oui.
Les 65 ans et plus, 39% d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron, contre 18% pour Marine Le Pen et 10% seulement pour Valérie Pécresse. C'était le cœur nucléaire de la droite, c'était son ancrage dans l'électorat retraité. Et sans doute que, en partie au gré des sondages qui ont été publiés dans la dernière ligne droite et des dynamiques de campagne qui indiquaient une forte poussée attendu de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, une partie de l'électorat retraité, plutôt aisé de droite, a pratiqué un vote utile en bifurquant, en passant de Valérie Pécresse à Emmanuel Macron, ce qui donne les scores élevés dont on a parlé sur les littoraux ou dans un certain nombre d'arrondissements parisiens, par exemple.
Allez, les auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000, Michel est avec nous au standard. Bonjour Michel.
Oui, bonjour monsieur.
Nous vous écoutons.
Merci. Comment comprendre...
Je précise que vous appelez Tulle, c'est bien ça, Corrèze.
Oui, oui, bon. De Tulle en Corrèze, oui, voilà ma question. Comment comprendre que des électeurs qui ont voté Mélenchon hier puissent envisager de voter Le Pen au deuxième tour ?
Jérôme Fourquet.
Alors, ça peut paraître évidemment surprenant si l'on prend les critères habituels de la science politique, passer de candidat de la gauche à l'extrême droite, mais... On est dans cette reconfiguration et on peut penser que une partie de l'électorat populaire qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon, qui a de fortes attentes en termes de pouvoir d'achat, qui également est très attaché à la retraite telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, eh bien par anti-macronisme, envisage de voter pour Marine Le Pen. On peut ajouter à cela aussi le fait que Emmanuel Macron, on a parlé dans son discours hier, la poursuite de la construction européenne fait partie de l'ADN du macronisme et oui. Le côté, on va dire, assez distant vis-à-vis de la construction européenne est également un élément qui peut permettre des passerelles ou des passages entre un électorat insoumis et un électorat Le Pen. Alors, on rappelle, hein, dans les chiffres, le cas que vous évoquez existe, mais il est loin d'être majoritaire. Hein. Parmi l'électorat qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon...
7 600 000 voix hier, voilà, on rappelle.
45% nous disent qu'ils s'abstiendraient ou qu'ils voteraient blanc au deuxième tour. Un tiers qu'ils pratiqueraient le Front Républicain. Et 23% seulement, alors ce n'est pas négligeable, mais 23% seulement qu'il voterait pour Marine Le Pen. Donc attention, c'est loin d'être majoritaire à la France Insoumise. Néanmoins, c'est une proportion qui est non négligeable et qui existe.
Allez, un mot de la gauche, nous allons partir en reportage. Le Parti Socialiste, la gauche, l'autre parti de la gauche, le Parti Socialiste, 2,17% en Périgord. Ça veut dire que seulement 5374 personnes ont voté pour les socialistes en Périgord. Dans cette terre radicale socialiste, terre de résistants, qui a longtemps été un bastion du PS, claque totale. Élément de reportage avec Marc Bertrand de France Bleu Périgord.
Tout un symbole. Là où il y a 10 ans, des centaines de personnes étaient en train de fêter le score de François Hollande, les volets de la fêlée sont fermés, la lumière éteinte. La première à arriver, c'est Marie-Claire. Elle attend sur le trottoir que quelqu'un vienne lui ouvrir.
C'est vraiment très triste parce que moi je pense que ce qu'on a porté pendant des années, des décennies, peut-être que c'est la fin d'une forme de parti traditionnel, effectivement.
Michel la rejoint. Elle vient de terminer le dépouillement chez elle à Saint-Laurent-sur-Manoir. Les voix socialistes se sont volatilisées.
17 à Anne Hidalgo. Mais ça, bon, à un moment, il y en avait que deux. J'ai dit, tiens, ça doit être Bernard, mon compagnon, et moi. Et je suis choquée aussi, enfin, même si je suis pas de droite, de voir que Valérie Pécresse fait même pas 5%. Voilà, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Un peu, un monde qui s'écroule, ouais.
Son mari, Bernard, s'avance, le béret sur la tête. Il a sa carte depuis 50 ans, et de tous ses voisins, ses camarades, il n'y a plus que lui qui vote socialiste.
Il y en a beaucoup qui sont allés chez M. Macron, hein. C'est ça qui me fait mal, moi.
Au PS, on fait barrage au RN, alors les deux militants vont faire barrage, mais Michel souffle, vous rendez compte, ça fait 3 fois qu'on fait barrage.
Anne Hidalgo, 600 000 voix au plan national seulement hier, et notre auditeur nous appelait de Tulle, dans le fief de l'ancien président Hollande, elle obtient moins de 4% des voix, comment on explique? Alors il était en cours, hein. On rappelle que Benoît Hamon avait fait 6% en 2017, cet effondrement qui n'en finit pas.
Bien, on est là dans cette poursuite de la recomposition politique avec la dislocation des, comme le disait votre interviewé, des vieilles appartenances partisanes. Si vous prenez les moins de 50 ans, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sont à 4% sur les moins de 50 ans. Donc dans la France de demain, c'est des marques, comme on dirait en marketing, qui ne parlent absolument plus. Donc il y a un brouillage total des clivages et Emmanuel Macron qui a pratiqué le en même temps a capté toute une partie de cet électorat. Et là aussi, l'électorat socialiste, anciennement socialiste, en banlieue ou dans le monde enseignant, par exemple, beaucoup se sont portés cette année, ou dans les dom-tom, on parlait des Antilles, se sont portés directement sur Jean-Luc Mélenchon. C'était Ségolène Royal qui parlait du vote utile. Et puis, une autre frange de l'électorat socialiste, et ça a été redit aussi dans votre reportage, c'est massivement reporté sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron récupère cette année à peu près 40% de l'électorat qui avait voté François Hollande au premier tour en 2012. Donc, et on avait dit, il a perdu sa jambe gauche au cours de son quinquennat, et manifestement, cette jambe gauche existe toujours, même si c'est pas celle qu'on entend le plus, et c'est pas celle à qui il s'est le plus adressé, existe encore dans l'électorat macroniste. Alain Juppé avait dit, pendant la primaire de la droite, il faudra bien un jour qu'on finisse par, en 2016, couper les deux bouts de l'omelette. C'est-à-dire que la droite du PS et la gauche de LR se mettent à travailler ensemble, en gros les strausskaniens et les juppéistes, avec au centre François Bayrou. Eh bien, en fait, c'est Emmanuel Macron qui tenait le couteau, et en 5 ans, de 2017 à 2022, il a redessiner l'omelette.
Vous nous disiez tout à l'heure, les LR ont encore un réseau d'élus locaux. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Parti Socialiste? Si j'ose dire, de gamelle en gamelle, on finit par le perdre, ce réseau d'élus locaux?
Alors, on a vu la résistance de ce qu'on appelle l'ancien monde, hein, aux élections municipales, aux élections départementales et régionales, avec quelque chose complètement à front renversé. Les deux grands partis qui dominent aujourd'hui au niveau national, La République En Marche et le RN, ont été en échec dans ces élections locales. Donc ces vieux partis conserve un maillage d'élus, mais effectivement, on le voit à Paris ou ailleurs, échec après échec, c'est difficile de garder ses positions, et vous avez aussi des moyens financiers, des troupes militantes, bien qui petit à petit s'étiolent, mais ces vieux appareils mettent beaucoup de temps à disparaître. Hein. Vous voyez qu'on a encore tout un maillage d'élus radicaux de gauche. Le Parti radical de gauche a été le parti phare de la Troisième République. Donc ça, on peut mettre longtemps avant de disparaître au plan local, même si au plan national, le courant que vous incarnez ou la marque que vous portez n'évoque plus grand-chose aux yeux des électeurs.
Et ces courants-là peuvent se réveiller à l'occasion des législatives?
Alors ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Là, on voit que là, on est dans une situation... Alors, on met de côté les aspects financiers, mais oui, qui sont majeurs, hein, parce qu'il faut financer ces campagnes.
Majeurs vraiment?
Ah bah bien sûr, vous vous souvenez qu'en 2017...
C'est-à-dire, c'est la vie des LR, du PS et d'Europe Écologie Les Verts, on va en parler dans un instant.
Alors peut-être que Europe Écologie a fait une campagne qui était plus de sobriété et de frugalité, ils savent faire. Mais en tout cas, LR n'anticipait pas du tout d'être sous le seuil des 5%. Au regard des sondages, je pense qu'au PS, on avait réduit la voilure depuis un moment, mais en 2017, le PS avait vendu son siège historique. Et donc vous êtes obligé de licencier des permanents, des salariés de votre parti, vous fermez les sièges locaux dans des fédérations, et donc c'est tout un maillage qui petit à petit disparaît.
Et donc une intensité de campagne éventuellement pour les législatives qui peut
Des forces militantes qui sont moins nombreuses, et pour LR aussi des calculs qui vont être faits de la part de ces députés LR qui se disent, si nous dans notre circonscription on a un FN en dynamique, un candidat zémouriste, quelle est notre chance de survie? Et dans d'autres circonscriptions, ils vont regarder les scores parfois hallucinants réalisés par Emmanuel Macron. Quand vous voyez qu'à Neuilly, il fait 49%, bon, la députée LR de Neuilly peut se poser un certain nombre de questions. Donc, est-ce que je repars sous mon étiquette LR, ou est-ce que je vais commencer à les regarder du côté, par exemple, d'Édouard Philippe, sur la composition? On a entendu parler d'hier de coalition.
C'était pas clair, d'ailleurs.
On est dans la décomposition-recomposition.
Ouais. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous détailliez le vote des retraités, comment les jeunes ont voté, et puis après, on entendra Marc au standard.
Alors, les jeunes, si on prend les 18-24 ans, ils se sont assez fortement portés sur Jean-Luc Mélenchon à plus de 36% des voix, suivi par Emmanuel Macron 21% et Marine Le Pen 18%. Le candidat écologiste fait 10%, ce qui n'est pas rien, c'est sa meilleure tranche d'âge. Et donc on entend souvent, vous savez, une jeunesse très écologiste et autres. Cette jeunesse, elle est diverse à l'image de la société française, même s'il y a un tropisme de gauche qu'a su capter Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron s'était adressé à eux également, très fortement investi sur les réseaux sociaux. Oui. On avait aussi des choses qui avaient été faites au moment de la crise Covid. Les repas étudiants à 1 euro pour les plus jeunes, alors qui n'ont pas encore l'âge, qui sont ou peut-être pour certains qui sont encore au lycée, le pass culture. Et donc 21, c'est pas non plus complètement négligeable. Mmh. Donc on a une jeunesse qui est aussi assez diverses et assez hétérogènes dans ses opinions et comportements politiques.
Les écologistes et la question de Marc au standard. Et après, on entendra Julien Bayou. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Écoutez, ma question, pourquoi les écologistes qui ont eu... Alors, je tiens à préciser que je vote pas écologiste. Hein, oui. Mais pourquoi ils ont eu des très jolis scores dans les grandes villes, au niveau des municipales, oui. Et pourquoi c'est une telle hécatombe. Et je voulais rebondir sur votre reportage en Dordogne, puisque oui. J'habite en Dordogne.
C'est ce que je vois sur ma petite fiche, oui.
Voilà, et le département est quand même PS, et c'est là où il y a une hécatombe, quoi. Ouais.
Alors Marc, on va répondre à votre question en deux temps. D'abord, cette question, on l'a soumise ce matin sur France Inter à Julien Bayou, responsable d'Europe Écologie Les Verts. Voilà sa réponse, et puis on entend Jérôme Fourquet ensuite.
Pour nous, c'est une immense déception. Il y a forcément une part de responsabilité collective. Il y a aussi le fait que cette campagne a été une non-campagne. Vous parliez du climat, le rapport du GIEC est tombé très récemment, mais le climat n'a été que pour 3% dans les débats de cette campagne. Il n'y a même pas eu d'ailleurs de véritable débat projet contre projet. Vous voyez que quand on parle de la guerre en Ukraine, on mesure que quand on est dépendant face au gaz, c'est le porte-monnaie, mais c'est aussi l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.
Justement.
Tout ça, c'est lié au climat et à la transition écologique. Et nous n'avons pas su, ou il n'a pas été possible, de mettre ces questions à l'agenda. On a senti, hein, bien sûr, un immense rouleau compresseur du vote soi-disant utile. On le paye aujourd'hui, c'est une grande déception, mais c'est une plus grande inquiétude encore de mesurer que l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans ce pays.
Julien Bayou avec Yael Gauze et Mathilde Munoz ce matin sur France Inter. Jérôme Fourquet, ça marche au municipal, les sujets de campagne, en tout cas les grands sujets d'actualité étaient censés porter les écolos, et pourtant, Yannick Jadot, 4,6% des voix.
Alors, ces élections, les élections locales sont souvent assez favorable ou propice à un vote écologiste. On l'a vu au municipal, on l'a vu aussi au régional, parce que on parle de cadre de vie, d'aménagement du territoire. Au municipal, on parle des cantines scolaires, des pistes cyclables, de l'urbanisme. Et donc là-dessus, il y a une résonance assez forte avec l'écologie. Et donc pour ne pas accabler Yannick Jadot, on rappellera que l'écologiste qui a fait le meilleur score à une élection présidentielle, c'était Noël Mamère en 2002, il fait 5,2% des voix, donc Yannick
Jadot à peine plus.
N'est pas très très loin. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a eu le GIEC depuis...
Il y a eu des rapports du GIEC à la pelletée, oui.
Et manifestement, pour les électeurs, cette question écologique n'a pas été centrale, où il y avait peut-être d'autres préoccupations ou priorités en termes d'urgence. Vous savez, c'est la formule qui a été réutilisée à satiété, fin de mois, fin du monde. Manifestement, c'est d'abord la fin du mois qui a pesé assez lourdement. La question du pouvoir d'achat a été en tête des préoccupations des Français. Et à cela s'ajoutent des raisons qui sont plus politiques. C'est évoqué dans votre reportage, le fait qu'il y a un vote utile massif, oui, qui se soit mis en place à gauche au profit de Jean-Luc Mélenchon, dont on rappelle quand même, et c'est sans doute pas un hasard s'il fait des scores aussi chez les jeunes, le fait qu'il a mis la question écologique au centre de son programme. Il parle de la planification écologique et autres, et il a sans doute capté toute une partie d'un électorat qui, sinon, aurait pu voter, aurait pu se porter sur les écologistes. C'est par exemple sur la question du nucléaire que s'est fait la césure avec les communistes qui, historiquement, étaient avec Jean-Luc Mélenchon. Césure qui a coûté très cher, hein. Elle coûte sans doute la deuxième place à Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon a assumé cette volonté de sortir du nucléaire et qui a sans doute parlé un électorat qui sinon aurait pu voter écolo.
Question sur l'appli France Inter. Pourquoi ne parle-t-on pas du deuxième parti de France, les abstentionnistes et vote blanc? Jérôme Fourquet, abstention moins importante que redoutée, 25%. Le record est à 28 en 2002, mais qui grimpe au fil des scrutins.
Alors, on a une montée quasi inexorable, mais lente, de l'abstention. C'est moins fort qu'attendu, donc on s'est réjoui. On a vu hier des scènes de files d'attente très longues dans les bureaux de vote. Donc pour les citoyens, les démocrates, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, on a un électeur sur quatre qui n'est pas allé voter, ce qui est beaucoup. et qui dit quand même une forme de prise de distance d'une partie de la population oui. avec la chose publique, avec la chose politique. Alors même qu'on avait quand même 12 candidats, donc on dit souvent on trouve pas chaussure à son pied, il y avait quand même pléthore d'offres, sans doute parce que une partie, notamment dans les milieux les plus modestes de la population, considère que la politique n'est plus en capacité de changer la vie, oui. comme on disait jadis, et que cette capacité n'existant pas, il se détourne de la politique. On rappellera néanmoins que d'autres démocraties occidentales nous envierait quand même ce score de 75% qui ne s'observe que sur une présidentielle qui reste l'élection phare, l'élection reine, et qui est un peu sanctuarisée, même s'il y a une tendance nette à la hausse scrutin après scrutin de l'abstention.
Deux questions ponctuelles. Jean Lassalle, plus d'un million de voix, c'est quoi? Ce sont des succès locaux dans ces régions, dans sa région d'origine?
Oui, alors il a déjà été candidat en 2017.
Oui.
Et donc on s'était penché sur la géographie du vote Lassalle.
Oui.
Et donc on a un effet de fief très fort dans le Béarn. Et puis on a quand on dézoome un petit peu, on voit que c'est toute la France du Sud-Ouest et la carte correspond assez bien. Sans clin d'œil et sans humour, à la limite du parler d'Oc et du parler d'Oyle. Hein. Donc c'est une France rurale, plutôt des montagnes également. On avait regardé en 2017 qu'il y avait une corrélation entre l'altitude de la commune et le vote Lassalle. On voit aussi des bons scores en Corse.
Oui.
Il a fait campagne en Corse. En tant que Béarnais, il est très attaché aux langues régionales. Il s'est montré très proche du combat des nationalistes corses. Et puis, il a parlé aussi à la ruralité, aux agriculteurs. Dans les communes les plus agricoles, il fait des scores non négligeables. Et je pense qu'en plus, ça c'était 2017, il y a un ingrédient supplémentaire, c'est la dimension anti-système, avec un rapport très rugueux et, on dirait, au rugby, très viril, avec les journalistes, qui a sans doute séduit une partie d'un public qui s'était par exemple reconnu dans le mouvement des Gilets jaunes et qui a pu trouver dans Jean Lassalle un candidat un petit peu chamboule-tout anti-système. Ce 3% n'est pas négligeable, hein. Il est au-dessus d'Anne Hidalgo, au-dessus des communistes.
Au-dessus du million de voix.
Au-dessus du million de voix, alors même que si on est sur cette sphère des partis protestataires ou anti-système, on a déjà des scores qui sont très importants chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen. Donc il y a une niche supplémentaire dans l'archipel français en faveur de Jean Lassalle, manifestement.
Archipel français, votre précédent livre. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour.
Vous vouliez reparler de la droite.
Oui, je voudrais savoir si l'effondrement de la droite n'est-il pas l'effondrement du gaullisme. Je m'explique. Le seul moyen pour les extrêmes de droite comme de gauche d'arriver au pouvoir et l'élection du président de la République au suffrage universel, puisqu'à toutes les autres élections, les extrêmes perdent. Or, cette élection a été imposée par l'égoïste.
Jérôme Fourquet.
Alors effectivement, c'est doublement cuisant pour le parti néo-gaulliste oui. d'être soumis à un tel échec dans l'élection reine sous la cinquième République, et cet échec va avoir par ricochet des conséquences très lourdes aux législatives. On rappellera que le LR avait sauvé 100 députés
oui,
en 2017, mais François Fillon à l'époque faisait 20%. Donc là, le groupe LR va sans doute se retrouver très très contraint et très très limité. Et on aura aussi sans doute des conséquences derrière en cascade. On en parlait tout à l'heure sur le réseau d'élus locaux, puisque la poursuite de la recomposition, sans jeu de mots, est en marche et qu'Édouard Philippe et d'autres vont essayer d'aller attirer dans leur filet toute une partie de ces cadres LR.
Allez, il nous reste 2 minutes. 2 questions, Jérôme Fourquet. L'électorat Zemmour, moi j'ai repéré les beaux quartiers de Paris, Neuilly et par ailleurs PACA, le FN du Sud en quelque sorte. Est-ce que c'est ça l'électorat de Zemmour ou est-ce que j'ai une mauvaise vision?
Non, alors ça correspond sociologiquement à deux typologies. Un électorat qui vient plutôt du Rassemblement National, mais oui. pas de n'importe quel Rassemblement National, plutôt celui du Sud. D'ailleurs, c'est dans ces régions-là qu'il a commencé sa tournée de meeting assez triomphale au moment où il faisait la promotion de son livre. Et puis un autre électorat plus aisé, plus âgé, plus bourgeois, qui se recrute plutôt dans les beaux quartiers, qui est plutôt un électorat assez traditionnaliste et conservateur. Et donc c'est l'alliage de ces deux qui a fait le vote Zemmour. Alors, Éric Zemmour se targuait d'être le seul à pouvoir réaliser l'alliance de ce qu'il appelait les catégories populaires et la bourgeoisie patriote. C'est pas complètement faux quand on regarde les chiffres, sauf qu'il attendait à ce que cet ensemble se situe plutôt à 15, 17 ou 18% qu'à 7%. Là, il y a une hétérogénéité de son électorat, mais à un niveau qui est très faible, et lui aussi a été victime du vote utile en faveur de Marine Le Pen.
Est-ce que le second tour se jouera sur des questions économiques et sociales, et en particulier le pouvoir d'achat ?
Oui, et je pense, j'insiste, je reviens dessus, aussi sur un certain nombre de mesures mise en avant par Emmanuel Macron, notamment la retraite à 65 ans. La clé du résultat du second tour, c'est le comportement des électeurs de gauche. Et donc, si Emmanuel Macron n'arrive pas à réactiver chez eux la dynamique, le réflexe du Front Républicain, ça sera très compliqué pour lui. Donc, il faut qu'il donne des gages à cet électorat de gauche.
Merci infiniment.
Merci à vous,
Fourquet, de nous avoir apporté vos lumières. Je rappelle les références de ce livre, La France sous nos yeux. C'est aux éditions du Seuil. C'est coécrit avec Jean-Laurent Casselli.